Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du mouvement aujourd'hui. On va se pencher sur des idées clés de la dynamique.
Oui, on s'appuie pour ça sur des concepts tirés de Dynamica, Motier Forcé.
Exactement. L'objectif, c'est de comprendre un peu mieux ce qui fait bouger les objets autour de nous. Des trajectoires courbes, aux oscillations bien régulières.
C'est ça. En gros, les sources nous présentent trois types de mouvements vraiment fondamentaux. Il y a le vol d'un projectile, qui décrit une parabole. Ensuite, la rotation, le mouvement circulaire, qui peut être constant ou pas. Et puis, le mouvement harmonique, ce va-et-vient très prévisible. Chacun a sa propre logique, en fait.
D'accord. Alors, commençons par le premier, peut-être le plus visuel. On lance un objet. Il fait une courbe, une parabole. Pourquoi spécifiquement cette forme? Qu'est-ce qui se passe?
C'est une très belle illustration de deux phénomènes qui se produisent en même temps. Et c'est ça un peu le point important. Horizontalement, si on oublie la résistance de l'air, bien sûr, l'objet avance à vitesse constante. Et verticalement, il est juste soumis à la gravité. Comme si on le laissait tomber, en fait. Une chute libre. Et c'est le mélange de ces deux mouvements, qui sont indépendants, qui donne cette fameuse trajectoire parabolique.
Indépendant. Vous voulez dire que la vitesse horizontale, elle n'influence pas du tout la chute verticale, et l'inverse non plus?
Précisément. C'est un point vraiment clé souligné dans nos lectures. Imaginez, un objet tiré à l'horizontale tombe exactement à la même vitesse qu'un autre objet qu'on lâcherait simplement de la même hauteur au même instant.
Ah oui, c'est vrai!
Cette indépendance, elle est cruciale. C'est grâce à ça qu'on peut calculer, par exemple, la portée, donc la distance horizontale, ou la hauteur max atteinte quand on fait un lancer en cloche. Les équations de la trajectoire, elles découlent directement de cette séparation des composantes.
C'est intéressant de voir comment ce principe, finalement, simplifie l'analyse. Ok, alors, si on passe des objets qui volent librement à ceux qui sont, disons, contraints à une trajectoire, comme un objet qui tourne en rond.
Ah, le mouvement circulaire. Alors là, que ce soit uniforme, donc à vitesse constante ou bien accélérée, la direction de l'objet, elle change tout le temps. Et c'est là qu'arrive une notion fondamentale, l'accélération centripète.
Attendez, une accélération, même si la vitesse, celle qu'on lirait sur un compteur par exemple, elle reste la même. Ça peut paraître un peu bizarre, non?
Tout à fait. Et c'est qu'une confusion fréquente. Mais il faut se rappeler que la vitesse, c'est un vecteur. Ça a une grandeur, la rapidité, et une direction. Dans un cercle, même si la rapidité est constante, la direction, elle, change à chaque instant. Cette accélération centripète, elle est toujours dirigée vers le centre du cercle. C'est elle qui est responsable de ce changement de direction permanent.
D'accord.
Et elle est causée par une force, la force centripète, qui tire l'objet vers le centre. Sans cette force, l'objet partirait tout droit en ligne tangente.
Je vois. C'est elle qui maintient l'objet sur cette trajectoire circulaire. Et pour décrire cette rotation, les sources parlent de vitesse angulaire, de radian. C'est quoi exactement?
Oui, alors, la vitesse angulaire, ça mesure simplement la rapidité de la rotation. C'est combien d'angles on parcourt par seconde. Et utiliser les radians, qui est une unité d'angle un peu particulière, basée sur le rayon du cercle, ça simplifie en fait beaucoup les calculs. Surtout pour lier l'angle de rotation et la distance réelle parcourue sur l'arc de cercle.
D'accord.
Et si la vitesse de rotation change, là on introduit d'autres concepts. L'accélération angulaire et aussi l'accélération tangentielle, qui elle modifie la grandeur de la vitesse, la rapidité.
Compris. Bon, des trajectoires courbes au cercle. Il nous reste un dernier type de mouvement fondamental à aborder. L'oscillation. Le mouvement harmonique simple.
Ah oui, ça c'est un peu le rythme de base de beaucoup de phénomènes naturels. Il suffit de penser à une masse au peu d'un ressort, qui monte et descend, ou le balancement très régulier d'un pendule. C'est ce mouvement répétitif autour d'une position d'équilibre stable.
Et ce qui les définit, c'est cette tendance à toujours vouloir revenir à l'équilibre, c'est ça?
Exactement. C'est grâce à ce qu'on appelle la force de rappel. Plus l'objet s'éloigne de sa position d'équilibre, plus cette force le tire en arrière, vers cette position. C'est ça qui entretient l'oscillation. Les concepts importants ici, c'est l'amplitude, l'écart maximum par rapport à l'équilibre, la période, donc le temps pour faire un aller-retour complet, et la pulsation, qui est liée à la fréquence. D'ailleurs, les sources donnent les formules pour calculer la période, par exemple pour un système masse-ressort ou un pendule simple.
Justement, pour le pendule, il y a cette propriété assez étonnante mentionnée, l'isochronisme.
Oui, pour de petites oscillations en tout cas. La période d'un pendule simple, elle ne dépend que de sa longueur et de la gravité locale. Elle ne dépend pas de l'amplitude du balancement.
Peu importe si on le lâche de très haut ou de moins haut.
Pour de petits angles, oui. C'est une observation fascinante. Ça a eu des applications historiques majeures, comme pour les premières horloges précises. Et d'un point de vue mathématique, pour décrire finement la position, la vitesse, l'accélération à chaque instant dans ce type de mouvement, on utilise souvent les fonctions sinus et cosinus. Et bien sûr, leurs dérivées, qui sont l'outil mathématique parfait pour décrire le changement instantané.
C'est fascinant de voir comment ces modèles mathématiques arrivent à saisir l'essence de mouvements qui semblent si différents au premier abord. La parabole, le cercle, l'oscillation.
Oui, parabolique, circulaire, harmonique, chacun avec ses forces spécifiques, la gravité, la force centripète, la force de rappel, et ses caractéristiques propres, comme la période, les différentes accélérations.
Ces modèles, ce sont vraiment des outils puissants pour comprendre et même prédire comment les choses bougent.
Tout à fait. Même s'il faut garder à l'esprit que ce sont souvent des idéalisations, des modèles simplifiés. Ils posent les bases pour analyser ensuite des mouvements beaucoup plus complexes dans la réalité.
Ce qui m'amène d'ailleurs à une dernière réflexion. Nos sources décrivent ces mouvements en des conditions un peu parfaites, non? Sans frottement, sans résistance de l'air.
Oui, ce sont des modèles idéalisés, c'est vrai.
Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment ces forces bien réelles, qu'on a négligées dans nos modèles de base, comment est-ce qu'elles viennent perturber ces belles trajectoires, ces oscillations parfaites?
C'est une excellente question. Qu'est-ce que ça implique sur la difficulté, finalement, de modéliser le monde réel avec toute sa complexité? C'est là que la physique devient encore plus intéressante et aussi plus difficile, évidemment.